Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la chercheuse Edith Broder, qui vient nous parler des Juifs d'ailleurs, l'ouvrage qu'elle a dirigé et qui vient de paraître chez Albin Michel. Bonsoir Edith Broder.
Bonsoir.
Un mot de présentation déjà, et n'hésitez pas à me reprendre si je me trompe. Vous êtes docteur de l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres, actuellement chercheuse associée au CNRS et à l'Université d'Afrique du Sud. Vous êtes spécialiste des mouvements juifs africains. Vous avez publié des essais sur les Juifs noirs d'Afrique et de nombreux autres ouvrages et articles. Et votre actualité, c'est donc la parution d'un ouvrage collectif, Juifs d'ailleurs, diaspora oubliée, identité singulière, dans la collection Présence du judaïsme, chez Albin Michel. Vous êtes parti d'un constat. Le judaïsme est généralement pensé selon ses deux branches, le judaïsme ashkénaze et le judaïsme séfarade. Et votre livre nous fait découvrir toutes ces autres communautés qui ne sont ni ashkénazes ni séfarades. Il existe des dizaines de groupes juifs méconnus dispersés en Afrique noire, dans le Caucase, en Inde, en Chine, en Amazonie ou encore aux Caraïbes. Ce sont les juifs d'ailleurs qui, en miroir, questionnent notre identité juive. Des spécialistes vous ont accompagné pour signer des textes qui explorent ces communautés méconnues. Alors la première question que je souhaitais vous poser, Edith Broder, pourquoi ce livre? Racontez-nous la genèse de cette histoire des juifs d'ailleurs.
Écoutez, c'est simple et compliqué à la fois. C'est simple parce que en faisant mes recherches sur le judaïsme africain, j'ai découvert qu'il y avait des identités juives qui n'avaient strictement rien à voir avec ce que nous pouvions imaginer d'un point de vue eurocentriste. Et compliqué, c'est parce qu'il a fallu faire des choix, d'abord trouver tous les intervenants qui sont des universitaires spécialistes des différentes régions qui sont traitées dans l'ouvrage, dans le passé et dans le présent. Donc, compliqué au sens où il fallait aussi se mettre des limites. C'est une petite encyclopédie, je mets le mot entre guillemets, mais ça n'en est pas une. Comment se justifier à soi-même du choix? Pourquoi on n'a pas traité, par exemple, les Juifs d'Afrique du Nord? Eh bien, parce qu'il y a énormément d'ouvrages sur eux. En français. Donc, on n'avait pas besoin, mais c'était un choix difficile. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu.
Alors, vous expliquez en introduction, dans une préface très claire, que ces juifs, d'ailleurs, ne sont pas ashkénazes ni séfarades. Alors, par défaut, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un juif ashkénaze, un juif séfarade, éventuellement les mizrahim?
Alors, écoutez, je vais plutôt... c'est une question d'origine géographique, avec tout un tas d'amalgames qui se sont faits. Notamment les Juifs d'Afrique du Nord, sont-ils les Mizrahim ou sont-ils des Séfarades? Ils passent pour des Séfarades. Donc, si vous voulez, surtout, ce qui est très important, cette définition Séfarade, Ashkenaz, Mizrahim, elle est dans les esprits. Mizrahim peut-être un petit peu moins que les deux précédentes. Surtout, il y a bien d'autres définitions possibles, puisqu'il y a des Juifs africains, puisqu'il y a eu des Juifs chinois et qu'il y en a toujours, puisqu'il y a des identités juives en dehors de cela qui sont extrêmement complexes. Donc en fait, ce qu'on a voulu montrer, c'est un défi à une vision monolithique de l'identité juive, en quelque sorte, pour le résumer.
Alors, le découpage de l'ouvrage y répond, hein, justement. Il y a une introduction de la diaspora aux diasporas, et puis ensuite des monographies des juifs d'ailleurs selon les aires géographiques, le monde islamique, l'Asie centrale et musulmane, l'Orient russe, les juifs d'Amérique latine et des Caraïbes, les juifs d'Inde, les juifs d'Afrique subsaharienne, les juifs de Chine, et en guise de conclusion, les identités en mouvement. Eh bien, cette répartition, elle donne une impression de nombre de ces juifs d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont si nombreux que ça en regard justement des ashkénazes et des séfarades dont on parlait?
Alors, il y a des communautés qui sont nombreuses ou qui étaient nombreuses, mais qui se sont dispersées. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple des Éthiopiens, des qui sont bien connus, des Juifs éthiopiens. Au moment de l'opération Salomon, autour des années 90-91, il y en avait environ 14 000. Actuellement en Israël, par rapport à la démographie, ils sont 140 000. Donc vous voyez, il est très difficile de donner à l'emporte-pièce, de dire ils sont nombreux, ils ne sont pas nombreux. À quel moment une démographie, c'est à une époque donnée, Alors, dans certains lieux, il est possible, encore parce qu'il y a des études démographiques les concernant, de donner une indication. Et puis dans d'autres, c'est tout à fait impossible. Par exemple, quand on me demande combien il y a de juifs en Afrique, je suis absolument incapable de donner un chiffre raisonnable. Je peux dire, pour certains pays, qu'il y en aurait autour de tant. Mais tout ça reste extrêmement flou. Il n'y a pas d'études.
Alors, on va revenir sur ces juifs d'Afrique. Une autre question, peut-être, qui n'appelle pas de réponse, c'est que, est-ce qu'il y aurait un point commun entre ces différents groupes? Et s'il y avait effectivement un point commun, est-ce que ce serait le point de départ, la diaspora avec la destruction du premier temple en moins 586?
En effet, beaucoup de ces groupes affirment, et leur tradition orale est là pour mettre en valeur cet aspect de leur histoire, qui sont descendants des tribus perdues. Voilà, beaucoup le disent, ou alors qu'ils sont descendants des descendants.
D'accord.
Leurs descendants étaient dans un certain, je pense à la Chine, étaient irakiens, leurs ancêtres étaient irakiens, se sont déplacés en Chine. Donc vous voyez, quand ils se sont déplacés en Chine, c'était le Xe siècle, ils n'étaient plus des descendants, ou ils étaient des lointains descendants. Mais leurs ancêtres, eux, l'étaient. Donc, il y a bien sûr toute une mythologie des tribus perdues. Néanmoins, depuis le début du XXIe siècle, je remarque qu'en Afrique, les groupes qui s'affilient au judaïsme n'utilisent plus du tout ce levier-là. Ils disent qu'ils sont juifs parce qu'ils ont décidé de l'être, que ça leur convient mieux, et qu'au fond, tout ce qu'ils trouvent dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'ils portent en eux.
Alors la question évidente en découle, hein, on les appelle les juifs d'ailleurs, avec une impression d'homogénéité, mais ils sont très différents. Est-ce qu'ils ont conservé leur identité juive?
Alors justement, ça fait partie des critères de sélection. Comment on pouvait sélectionner ces communautés? Un des critères de sélection, c'était que des groupes, dans un environnement qui n'était pas compatible, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans un environnement juif, ont pu conserver leur identité juive et leur tradition. Et ont toujours affirmé leur rapport au judaïsme. Ça faisait partie de nos critères de sélection de ces groupes, puisqu'il a fallu le faire.
Alors, il est difficile d'être exhaustif, mais est-ce que cet ouvrage tend à l'être? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu assez général des juifs oubliés ou des juifs d'ailleurs sur le continent en son entier, sur les continents en leur entier?
Oui. On a une idée vraiment. Cet ouvrage, ce voyage en judéité, balaye de très nombreux pays, continents, régions. Oui, on a une idée. Non, ce n'est pas absolument exhaustif. Voilà.
Alors, vous écrivez, je vais vous citer, « Cette histoire des diasporas est écrite à l'heure où la majorité d'entre elles ont massivement émigré en Israël ou se sont dispersées vers d'autres destinations, tandis qu'il subsiste, comme en Iran et en Turquie, de micro-communautés juives et que d'autres identités juives émergent. Cette réflexion est donc une reconnaissance de l'histoire de ces diasporas au double sens du terme, une réentrée dans la conscience historique et un remaniement du grand récit de l'histoire juive. En inscrivant le phénomène diasporique dans une histoire globale, les histoires diverses des juifs d'ailleurs indiquent la diaspora juive comme figure emblématique des formes de dispersion du monde contemporain et des entités multiculturelles postmodernes. » Alors la question que je voulais vous poser, est-ce que l'identité des juifs d'ailleurs envoie finalement à celle de l'identité tout court?
Oui. C'est une vaste question, bien sûr. Bien sûr que l'identité des juifs d'ailleurs rejoint forcément les réflexions sur l'identité, et elle rejoint fortement à notre époque de globalisation et de diaspora multiple la question de l'appartenance. Les juifs d'ailleurs ont pratiqué, entre guillemets, la culture diasporique depuis toujours. De nos jours, compte tenu de la globalisation du monde, il y a tellement de communautés qui se retrouvent dans ce paradigme. C'est en cela que je dis que les juifs constitue une figure emblématique des formes de dispersion de notre époque.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Edith Broder, qui nous parle de l'ouvrage qu'elle a dirigé, Juif d'ailleurs, diaspora oubliée, identité singulière, qui vient de paraître dans la collection Présence du judaïsme chez Albin Michel. On l'a dit, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, les contributeurs sont nombreux et chacun possède sa spécialité. Comment ils se sont imposés à vous ?
Alors, bon, ce sont des collègues en quelque sorte. Donc on n'a pas trop de mal de l'un à l'autre à communiquer entre nous. On a suivi leur bibliographie, on a analysé dans quelle mesure ils pouvaient répondre à nos attentes et à celles des futurs lecteurs. Ça n'a pas été un choix trop difficile. Après, il a fallu donner quelques consignes légères, mais quand même, du mode de traitement de l'information qu'ils détenaient par leur recherche.
Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs chapitres, on les a précisés tout à l'heure, et que dans chacun des chapitres, il y a plusieurs monographies qui sont tout à fait passionnantes. On peut lire le livre d'une traite, on peut y picorer aussi les régions qui nous intéressent, ou à l'intérieur des régions, les sujets qui nous intéressent. Votre spécialité, ce sont les Juifs noirs d'Afrique. Vous introduisez la sixième partie consacrée aux Juifs d'Afrique subsaharienne, et vous y signez plusieurs études. Est-ce que en une ou deux phrases, peut-être un peu plus, vous pouvez nous dire quels sont les sujets que vous avez traités et nous résumer qui ils sont, ces Juifs d'Afrique subsaharienne.
Alors, j'ai traité différents groupes d'Afrique subsaharienne, les Abayudaya d'Ouganda, j'ai traité les Igbo du Nigeria, j'ai traité le Ghana, et j'ai dû traiter également le Cameroun et le Kenya. Voilà. Ce sont des endroits ou des pays que je connais où j'ai effectué des recherches, mais maintenant, depuis 20 ans, il y a d'autres chercheurs qui se sont associés à ces recherches. Donc, quand c'était possible de les introduire dans l'ouvrage, j'ai trouvé que c'était bien d'avoir des points de vue différents sur ces communautés.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des cartes, un cahier photographique, et la première carte est assez significative. On voit qu'il y a des Juifs d'ailleurs un petit peu partout, à part sur le continent australien. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on a une réponse ? Qu'est-ce qui a décidé les points de chute de ces Juifs d'ailleurs ?
Qu'est-ce qui a décidé la sélection, vous voulez dire, ou qu'est-ce qui a déterminé leur installation ?
Leur installation.
Alors ça, ce sont les aléas de l'histoire.
Oui, pourquoi, par exemple, pas sur le continent australien ? Est-ce qu'on a des réponses ?
Écoutez, on n'a pas fouillé cette partie-là. Voilà. D'accord. Il y avait peut-être des choses à faire, il y avait peut-être des recherches, c'est dans ça que je vous disais qu'on ne peut pas considérer que c'est une encyclopédie. Une encyclopédie ne fait aucune impasse. Nous, on annonce d'emblée dans l'avant-propos que, qu'on ne pourra pas tout traiter, qu'on n'a pas la prétention d'être exhaustif. Mais votre question est intéressante et ça fait partie des... On n'a pas traité le Japon. Mm-hmm. Alors moi, je sais qu'il y a une ou deux communautés juives. Je ne parle pas d'expatriés, bien sûr. Je parle de Japonais d'origine. Ça non plus. Je ne suis pas allée au Japon. Je devais y aller cette année. Vous voyez pourquoi je n'y suis pas allée.
Alors ça pourrait faire une suite à cet ouvrage remarquable.
Tout à fait, on pourrait faire un tome 2. Alors ça, moi, je serais tout à fait chaude là-dessus parce que je reste un petit peu, non, pas sur ma faim compte tenu des 500 pages, mais je serais très contente d'élargir.
Alors, nous sommes en pleine crise sanitaire, vous l'avez souligné. Le livre a paru il y a peu de temps. Est-ce que déjà, vous avez une vue d'ensemble ? Est-ce qu'il est bien accueilli ?
Écoutez, sincèrement et tout en essayant de garder certaines modesties, oui, le livre est merveilleusement bien accueilli. Il est en réimpression 2 mois et demi après.
Bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour terminer, c'est une question classique, mais néanmoins difficile dans cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire cet essai, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Eh bien, écoutez, je leur dirais, en ouvrant ce livre, en le lisant, à votre gré, vous ferez un très beau voyage en judéité.
Eh bien, merci beaucoup, Edith Bruder, d'avoir accepté pour nous, hein, pour les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom, de parler de cet ouvrage, Juifs d'ailleurs, diasporas oubliées, identité singulière, qui vient de paraître dans la collection Présence du judaïsme chez Albin Michel. Et je voudrais juste donc m'associer à ce que vous venez de dire. C'est un ouvrage passionnant. C'est vrai que en Europe, notamment, on connaît peu hein, ces Juifs d'ailleurs. On apprend beaucoup de choses. C'est écrit d'une manière qui donne envie. Eh bien de se plonger dans chacune des monographies qu'on peut picorer hein, à son gré. Et c'est vraiment un joli livre à s'offrir ou à offrir pour les fêtes de Hanouka, les fêtes de fin d'année qui arrivent. Bonsoir et à très bientôt, alors peut-être pour le tome 2.
Merci, je l'espère, et bonsoir à tous.